Ah, merci. Et avant de commencer, je voudrais, comme tout le monde, remercier l'invitation de cette institution et toutes les attentions de Patricia et Marie-Odile. Alors, je vais sans doute dire des choses que vous savez déjà, et je vais reprendre des choses qui ont été dites ce matin. Et disons que mon intervention peut-être va nous aider à voir d'une manière différente, puisque je vais parler d'un contexte différent, les questions qui préoccupent actuellement beaucoup de personnes en Europe, les politiciens, les autorités éducatives, les enseignants et bien sûr les parents des élèves. Alors, je vais parler rapidement du contexte dans lequel nous travaillons et de la politique linguistique qui est un peu différente de celle de la France. Je veux parler maintenant de la question qui nous préoccupe, qui est celle de la socialisation au plurilinguisme. Ensuite, je vais parler de quelques idées que nous avons pour organiser les apprentissages et finalement de remarques qui vont peut-être nous servir pour la discussion. Alors, ça, c'est le cadre restreint dans lequel nous voulons travailler, notre groupe de recherche. Nous sommes là, c'est le groupe de recherche en enseignement et interaction plurilingue. Nous avons, puisque nous faisons de la recherche, mais nous enseignons aussi des stagiaires qui doivent aller dans les établissements. Et nous travaillons avec des enseignantes, la plupart des femmes. Donc, et de ce travail en commun, il y a une préoccupation commune qui est celle de programmer, mettre en pratique, ajuster et évaluer des interventions dans l'école plurilingue. Des interventions qui peuvent porter sur une langue donnée, le catalan, le castillan ou une langue étrangère, mais qui peuvent porter aussi, et c'est là que ça nous intéresse d'une manière particulière, sur des approches intégrées, par exemple dans le travail par projet. J'ai présenté une autre fois des exemples de ce travail qui essaye d'intégrer l'utilisation de plusieurs langues. Je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais c'est un peu notre axe de travail. Donc, ce travail conjoint se propose la construction de savoir didactique et sur la gestion du plurilinguisme dans notre école. Le contexte géographique maintenant sur lequel nous travaillons, c'est le contexte de Barcelone, mais pas seulement de Barcelone. C'est le contexte des villes importantes de la Catalogne, numériquement parlant. Donc Barcelone et l'agglomération métropolitaine, Gérone et Lleida. En plus, les contextes précis dans lesquels nous travaillons, ce sont des contextes où des quartiers, des villes qui ont souffert, pour ainsi dire, les vagues migratoires, d'abord des années 60, en provenance d'autres régions de l'Espagne. Je sais qu'on ne peut pas dire souffert, mais je ne trouvais pas le synonyme. Excusez-moi. Oui, voilà, merci. Marqué. Alors, et puis les vagues des années 2000 de population en provenance surtout de l'Amérique latine, mais aussi du Maghreb et de l'Asie. Alors, ce sont des quartiers ou des zones, ça c'est important, où la plupart de la population parle habituellement, dans sa relation habituelle, le castillan. Dans une région, la Catalogne, où catalan et espagnol, que nous appelons aussi castillan, j'utilise ça comme des synonymes, sont co-officiels. Il y a une question qui me semble très importante parce que souvent j'oublie de la répéter, c'est que chez nous, il n'y a pas d'individu monolingue. Ça n'existe pas. C'est impossible. Même un enfant qui est né dans une famille, d'un quartier où on parle habituellement l'espagnol, il a été en contact, en quelque sorte, aussi avec le catalan, à travers les médias, la radio, la télévision, etc. Et il a déjà développé certaines compétences de réceptives en langue catalane. Dans ce sens, et je voudrais insister sur ce fait parce que ça change absolument la perspective des choses. Évidemment, les enfants d'origine étrangère ne sont pas non plus monolingues, parce que soit ils parlent une variété différente de l'espagnol de celles qui sont maintenant en contact, etc., etc. Alors, nous avons une politique linguistique en Catalogne qui est, ça c'est aussi important, c'est une seule école, parce que dans beaucoup de parties du monde, il y a des zones bilingues, il y a souvent deux écoles, une école pour une langue, une autre école pour une autre langue. La Catalogne a fait l'option d'une seule école avec deux langues. Aussi, l'option importante d'intégration des élèves étrangers dans tous les établissements. Tu m'avertiras quand j'aurai...
Tu as 20 minutes encore.
Donc, intégration des élèves étrangers le plus rapide possible dans les classes régulières. Et la promotion, bon, en Europe, l'Europe conseille la promotion de 1 plus 2, mais chez nous, c'est 2 plus 2, forcément, puisque c'est catalan-castillan plus deux langues européennes. Et l'enseignement timide, je dis timide parce que ce n'est pas obligatoire, c'est hors horaire scolaire. Et en général, c'est des enseignements auxquels assistent les enfants immigrés. Mais ça commence à se répandre dans beaucoup de régions, dans beaucoup de zones géographiques de notre pays. Il y a un fait sur lequel je reviens immédiatement, c'est l'autonomie des établissements, mais j'y reviens tout de suite. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Hein? Donc, dans le préscolaire, l'enseignement est en catalan. Après, si vous voulez, mais je pense que tout le monde ici sait pourquoi l'enseignement, l'école est catalane. Sinon, après, je peux vous le... Plus une langue étrangère, beaucoup d'établissements introduisent l'anglais dans le préscolaire. Et ensuite, nous avons dans le primaire, dans le secondaire, aussi bien pour les élèves autochtones que pour les élèves allochtones, deux classes en et deux langues. Donc, un catalan, deux catalans, un espagnol, un français, etc. etc. Donc, on a enseignement de la matière, mais aussi enseignement Émile, Clil, etc. Alors, je reviens sur ce phénomène, sur cette question qui me semble intéressante, c'est que, à la différence, je pense, d'autres pays de l'Europe, et notamment de la France, chez nous, les établissements ont un certain statut d'autonomie, ce qui fait que chaque établissement doit, ça c'est obligatoire, établir son projet linguistique en fonction de la situation, de l'entourage sociolinguistique, en fonction des effectifs, en fonction des demandes des parents, etc., etc. Ça c'était un phénomène important. Et ces projets linguistiques doivent être en rapport avec ce que l'on appelle les plans d'entourage, plans d'entorno, c'est-à-dire la manière dont les institutions, que ce soit la mairie, que ce soit un centre de loisirs pour les enfants et les familles, que ce soit les associations d'immigrants, etc., etc., la manière dont toutes ces institutions contribuent à la cohésion sociale du quartier ou du village et bien sûr la cohésion sociale, une partie, un élément capital de la cohésion sociale, c'est la langue. Donc la manière dont toutes ces institutions, tous ces pouvoirs, toutes ces entités contribuent aussi l'enseignement, à l'apprentissage du catalan et à l'apprentissage et à des langues d'origine des populations immigrées. Bon, alors ce panorama qui semble très beau pose beaucoup de problèmes. Le problème principal, c'est comment est-ce que l'école peut contribuer à la socialisation que nous pouvons appeler à la socialisation plurilingue, à la socialisation au plurilinguisme, comprise comme ces développements chronologiques et simultanés de répertoires communicatifs plurilingues, à partir de la participation des apprenants à des activités significatives. Et comment l'école réussit, et ça ferait partie de la socialisation, et en fait c'était dans le schéma de Daniel tout à l'heure, il y avait quelque chose dans cette orientation, comment l'école contribue à établir de rapports entre pratiques école et hors école. Parce que un problème central qui existe pour la socialisation en catalan, qui est importante pour la cohésion sociale et pour la scolarisation et pour le développement des compétences académiques, c'est que beaucoup d'enfants perçoivent un clivage énorme entre l'utilisation des langues dans le quartier et les demandes scolaires. D'accord ? Alors, donc, un problème central, à mon avis, c'est comment est-ce qu'on arrive à établir des liens entre pratiques hors école et pratiques dans l'école. D'autant plus que les pratiques hors école contribuent à la socialisation langagière et à la socialisation au plurilinguisme, et notamment les pairs. Les adolescents sont les premiers, ou les enfants sont les agents premiers pour l'apprentissage des langues. Alors, je dois galoper maintenant. Alors, nous voyons donc, nous travaillons à partir de cette idée. Donc, on a à l'intérieur de l'école cette dynamique et tension entre politique, représentation et pratique, hein, qui je passe rapidement sur les hypothèses de travail, excusez-moi, et pour aller et des exemples aussi pour aller voir les difficultés que la socialisation langagière, mais vous aurez ça en ligne, oui, nous pose. Alors, nous avons des difficultés de type idéologique, je pense que ça serait, qu'on pourrait y revenir tout à l'heure. D'une part, le rôle que la société, accorde à l'école quant à la transmission de la langue et la préservation de son intégrité. Ça, c'est justement un des problèmes capitaux lorsque on voit la différence ou le clivage qui existe entre les pratiques en classe ou à l'école et hors école. Parce que c'est là que se pose justement la question de la variété, même pour le catalan, et bien sûr pour l'espagnol, et aussi pour l'anglais. L'anglais qui est enseigné à l'école n'est pas l'anglais la lingua franca que les enfants voient sur les médias, etc., etc., qu'ils entendent dans la musique, etc. Alors, on est vraiment dans des planètes très différentes. Et là, c'est un problème fort. Donc, cette idée de normes imaginées, hein, et des programmes basés sur les règles one language at a time et one language only, c'est-à-dire une seule langue. On fait ça, on est en classe, on utilise une seule langue. Quand en réalité, la vie à l'extérieur de classe est beaucoup plus hybride, mélangée, beaucoup plus pluriel. Alors, il y a aussi des obstacles de type pratique très clairs. Alors, bien sûr, la peine à gérer les classes dans certains contextes, ça, nous avons beaucoup de données, et je les ai ici si quelqu'un a envie de les voir. Donc, comment les enseignants ont beaucoup de difficultés à gérer des classes qui sont plurielles, hétérogènes et diverses. Et alors, ils reviennent à des pratiques très classiques. Alors, le livre de français, de anglais, de catalan, etc. Les cloisonnements des classes et disciplines. Bon, ça, je pense que ce n'est pas la peine de commenter. On le sait bien. Mais il y a aussi les manques de descriptions sur les usages langagiers utiles pour l'école. Ça, c'est quelque chose dont on se plaint depuis 20 ans et on n'arrive pas à trouver des solutions. Et bien sûr, manque d'approche plurilingue. On a beaucoup d'idées sur les approches communicatives, approches actionnelles, etc. Mais elles sont toujours sur le français langue étrangère, sur le français langue 2, sur l'espagnol. Mais on n'a pas d'approche qui soit vraiment plurielle, multilingue, qui donne l'image du monde qu'on voit à l'extérieur des classes. Et finalement, bon, les manques d'orientation spécifique pour enseigner les langues à travers les disciplines non linguistiques. Même si ça, c'est un défi fort et qui a été appuyé par les autorités partout dans l'Europe, on ne dispose pas aujourd'hui encore de ce qu'on dit enseignement intégré. Qu'est-ce que c'est que l'intégration ? Il n'y a pas... Disons, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'intégration de langues et disciplines. Je voudrais citer Laurent Gageot, qui fait un travail excellent, mais on n'a pas encore les retombées didactiques qui sont très importantes. Hein? Bon, alors, je passe très rapidement sur des principes didactiques et je termine. J'ai encore 5 minutes.
Oui, tu as 7 minutes.
Ah, c'est parfait. Alors, pour nous, et quand je dis nous, je veux dire notre équipe, mais bien sûr les enseignantes avec qui nous travaillons, nous voulons concevoir la classe comme un espace plurilingue qui permettra aux apprenants de devenir, avec le temps, de monolingue en langue cible. Bon, je sais que ça semble Alain ?
Un retour en arrière,
mais je dis au départ qu'il n'y a pas d'individus monolingues, mais des individus plurilingues à des certains degrés, avec des compétences inégales. Et l'idée de notre équipe, c'est que le rôle de l'école est favoriser que les élèves puissent, s'ils le veulent, agir en tant qu'individu monolingue. Moi, je ne suis pas monolingue, mais là, j'essaye, même si je ne réussis pas à 100%, mais ce n'est pas mon intérêt non plus, j'essaye d'agir en monolingue. C'est ça. Donc, arriver, le rôle de l'école, ça serait d'augmenter les compétences pour que l'individu ait une variété de possibilités d'agir dans le monde et notamment parler comme par exemple un présentateur à la radio ou à la télévision qui parle un langage standard et dans une performance monolingue. D'accord? Alors, je ne peux pas faire, on ne peut pas faire tabula rasa, on doit partir justement de ces composants, de ces compétences variées pour aller vers des compétences qui soient standard, monolingue et de réception et de production. Bon, les élèves sont les acteurs et bien sûr approche actionnelle. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas maintenant. Oui, voilà. Alors, je voulais vous proposer un petit exemple, si je peux. Alors, ça, c'est une classe de enseignement de sciences, sciences en français. Alors, les enfants sont en train de voir sur l'écran de la télé, ils voient une présentation sur la respiration de plantes. Mais elle est en catalan. Pourquoi elle est en catalan? Parce que l'enseignante considère que les enfants doivent aussi acquérir le lexique de science en catalan. Alors, elle le fait travailler à partir d'un document en catalan qui n'est pas du lexique isolé, ça c'est important, pour que les enfants apprennent choisissent deux éléments qui vont transmettre à leur classe en français. Donc il y a tout un travail. On a une situation avec donc un texte, un élément monolingue catalan avec des images, donc c'est multidimensionnel. Et les enfants font un travail linguistique, mais pas directement, puisqu'ils sont en train de travailler sur la matière. J'espère que ça va fonctionner. Ah.
Et ça, qu'est-ce que c'est?
Oxygène.
Mais pourquoi on utilise ça? Pour respirer, pour manger, pourquoi?
Pour respirer.
Oui, c'est vrai. La plante utilise ça pour respirer? Ou pour se fabriquer?
Se prend aliment,
d'accord. Et qu'est-ce qu'il a, de quoi est-ce que les plantes ont besoin pour faire ça donc?
Les plantes apportent l'oxygène.
Oui.
Et
j'arrête parce que je n'ai pas le temps. Mais je voulais vous souligner donc que les enfants sont en train de. Et en fait, ils essayent de traduire, hein. Et vous voyez qu'il y a un mélange parce qu'il y a une fille qui dit les plantes agafent. Elle essaye de dire en français agafa, qui est saisir ou prendre, mais que ce travail fait par la fille n'est pas corrigé par l'enseignante. Hein? Un autre exemple, là c'est dans la classe, et là cet exemple j'aime beaucoup parce qu'il y a catalan, anglais, français, je crois, dans une activité de classe. Je sais pas. Bon, l'enfant dit à celui-là dit à la fille Kaya, ça veut dire tais-toi. Et l'enseignante dit tu dis pas tais-toi, tu dis pas calme, tu dis tais-toi. Et donc il saisit. Bon, mais en tout cas c'était intéressant parce que au départ, je sais pas si vous l'avez entendu, mais les enfants, elle dit, avez-vous des cerises ou est-ce que vous avez des cerises? Les enfants disent yes. Et puis l'enseignante qui dit yes. Yes, it's English, je sais pas quoi elle dit. Et puis donc l'enfant qui a commencé en catalan, puis un autre a repris en espagnol, etc., etc. Bon, je crois que je dois terminer sur très rapidement sur ce principe didactique. Donc l'apprentissage compris comme une pratique sociale située dans des activités concrètes. Et surtout pour nous, l'importance, c'est le travail par projet. Et le travail par projet, l'utilisation d'éthique. Je termine par cette image qui est un peu ce schéma qui est, disons, sur lequel nous voulons focaliser notre travail. On va travailler sur des projets qui aboutissent à un produit monolingue. Ça peut être un reportage, par exemple, on l'a fait déjà, ou ça peut être une publication, ça peut être un entretien qu'on va publier sur le site web de l'école. Hein. Ça peut être beaucoup de choses différentes, ou plusieurs produits. Et on doit partir forcément pour arriver à ce produit. On doit avoir des données. Ça peut être les Internet, chercher de l'information sur Internet. Ça peut être les atlas qu'on a dans la classe, etc., etc. Alors, ces données de départ qui nous servent à avoir une information qu'on va élaborer d'une autre manière, elle va forcément avoir un traitement plurilingue, parce que plurilingue est la classe, et parce que plurilingue sont les données qu'on a. Si on sort dans la rue, faire un entretien, ça va être forcément plurilingue. Mais l'objectif, c'est que les élèves arrivent donc à un produit qui va supposer, en quelque sorte, une amélioration des compétences de réception, de production, d'interaction orale, écrite, par rapport au registre, par rapport au genre de l'école, etc., etc. Une amélioration des compétences qu'on avait ici au départ. Merci beaucoup.